Corasso.org.
Corasso, association de patients qui informe et soutient les personnes touchées par un cancer ou un cancer rare tête et cou, plus communément appelé cancer ORL, vous propose aujourd'hui un podcast consacré à la glossectomie. Pour répondre aux questions que se posent les patients, le professeur Nicolas Facri est avec nous. Bonjour professeur Facri.
Bonjour.
Vous êtes chirurgien ORL à l'hôpital de la Conception à Marseille. Première question, qu'est-ce qu'une glossectomie ?
Alors, une glossectomie, c'est une intervention qui consiste à enlever une partie de la langue. Alors, ça peut être la langue mobile, c'est-à-dire la langue qu'on retrouve dans la bouche, ou la base de la langue qui est située plus dans l'arrière-gorge. Et dans les deux cas, on appelle ça une glossectomie.
Quelles sont les conséquences de cette opération ?
Alors, les conséquences, ça va dépendre de la zone qu'on va opérer, au niveau de la langue mobile ou au niveau de la base de langue. Ça va aussi dépendre de la taille de l'exérèse. Donc, du coup, il n'y aura pas forcément de conséquences importantes si on enlève une petite tumeur sur la langue. Par contre, si on enlève une tumeur un peu plus volumineuse, on pourra avoir des difficultés d'élocution ou parfois des difficultés pour avaler, hein, des problèmes de déglutition.
Est-ce que vous pouvez nous parler des différents types de reconstruction, les différents types de lambeaux ? Qu'est-ce qui détermine le choix de l'un ou de l'autre ?
Alors, un lambeau, c'est amener du tissu vascularisé pour reconstruire une perte de substance. Alors, quand on enlève une partie importante de la langue, il va falloir qu'on la reconstruise pour pouvoir avoir une fonctionnalité après l'opération qui soit la plus optimale possible. Donc, il faut trouver un tissu qui va permettre de faire cette reconstruction. Alors, on va toujours du plus simple au plus compliqué lorsqu'on a le choix. On peut essayer de prendre des lambeaux qu'on appelle locaux, par exemple au niveau de la muqueuse de la joue, ou des lambeaux un peu plus à distance avec avec la peau qui est située au niveau du cou ou à proximité en tout cas de la perte de substance. Et parfois on est obligé de faire ce qu'on appelle des lambeaux libres, c'est-à-dire aller prélever du tissu au niveau de la cuisse, au niveau de l'avant-bras, avec une artère et une veine qu'on va venir brancher au niveau d'une artère et d'une veine au niveau du cou pour pouvoir effectuer la reconstruction, la peau venant reconstruire la perte de substance sur la langue. Ce qui est très important, c'est que ce lambeau, il soit vascularisé, c'est-à-dire qu'il ait un apport de sang pour pouvoir être bien viable et pour pouvoir bien cicatriser.
Dans certains cas, il n'y a pas de reconstruction. Pourquoi ?
Alors, comme je vous disais, on va toujours du plus simple au plus compliqué. C'est vrai que quand on fait une toute petite exérèse pour une petite tumeur au niveau de la langue et qu'on peut fermer avec des points de suture, ben, on privilégie toujours cette technique. Après, quand on doit faire un lambeau, il faut que les conditions locales s'y prêtent, c'est-à-dire que si les gens ont déjà été opérés plusieurs fois et que il est compliqué de pouvoir réaliser un lambeau, bah, dans certains cas on peut être amené à ne pas le faire. Et puis parfois les patients sont relativement âgés ou ne peuvent pas supporter une chirurgie longue, parce que parfois les reconstructions sont relativement longues, et à ce moment-là, on peut être amené à renoncer à un lambeau, et peut-être laisser la zone en cicatrisation dirigée, avec des suites fonctionnelles qui seront moins bonnes, mais parce qu'on n'aura pas forcément le choix.
Est-ce qu'il y a forcément un curage ganglionnaire quand on fait une glossectomie ?
Alors, le curage ganglionnaire, ça consiste à retirer les ganglions qui seraient potentiellement atteints, donc les ganglions du cou, pour un cancer de la langue. Alors, on fait très souvent un curage ganglionnaire lorsqu'on réalise une glossectomie, puisque ça permet d'analyser les ganglions pour voir s'ils sont envahis, et puis de les retirer dans le même temps. Après, pour des tumeurs de petite taille, donc de stade 1 ou 2, et pour lesquelles le scanner et le bilan avant l'opération n'ont montré aucun envahissement ganglionnaire, on privilégie maintenant la technique du ganglion sentinelle. C'est un peu comme c'est la même technique que pour le cancer du sein. En fait, on va injecter un traceur radioactif autour de la tumeur et on va aller repérer le premier relais ganglionnaire au niveau du cou pour voir s'il est envahi ou pas et s'il faut faire ou non un curage ganglionnaire complet. Donc ça permet de faire des cicatrices beaucoup plus petites, de faire des chirurgies beaucoup moins agressives. Hein, c'est vraiment réservé aux cancers de stade peu avancé. Et puis dans certains autres cas, on peut ne pas faire du curage ganglionnaire, notamment des gens qui ont déjà eu un premier cancer ORL, hein, ça peut arriver, et qui ont déjà eu un curage ganglionnaire. Ben dans ces cas-là, on ne refera pas de curage ganglionnaire. C'est vrai qu'on peut avoir c'est assez rare, hein, mais des cancers de bas grade ou des très petits cancers au niveau de la langue mobile, où dans ces cas-là, on peut se passer d'un curage ganglionnaire.
Qu'est-ce que signifie prendre une marge dans ce type de chirurgie ?
Alors, quand on opère un cancer, le but, c'est qu'on l'enlève en entier et qu'il n'y ait pas de récidive. Donc, si on passe trop près de la tumeur, trop près du cancer, on risque de laisser des cellules tumorales en place, hein, microscopiques, qui ne se voient pas à l'œil nu, ou alors des petits emboles tumoraux qui sont un peu à distance de la tumeur. Donc dans toute chirurgie de cancer, on essaie de passer à distance du cancer, de garder du tissu sain entre le cancer et la zone où on coupe, pour être certain d'avoir enlevé toutes les cellules tumorales.
Quels soins de support conseillez-vous après une telle chirurgie ?
Alors, c'est des chirurgies qui peuvent être relativement complexes et lourdes. Donc d'abord, ça nécessite d'avoir une équipe soignante extrêmement bien formée. Après, en termes de soins de support, bon, ça va dépendre de la lourdeur de la chirurgie, bien sûr. Il faut bien évidemment un support nutritionnel avec une diététicienne. Il faut des orthophonistes puisqu'il est très important de reprendre une rééducation très précocement après la chirurgie. Il faut également des kinés pour pouvoir rééduquer le patient, faire des massages au niveau cervical et puis reprendre une vie normale le plus rapidement possible dans ce qu'on appelle souvent la réhabilitation accélérée après chirurgie. Et puis bien sûr, il y a tous les soins de support généraux, la prise en charge de la douleur, la prise en charge psychologique qui sont extrêmement importants.
Vous parliez justement de la rééducation. En quoi consiste-t-elle après une glossectomie ?
Alors, cette rééducation est extrêmement importante parce que les conséquences d'une glossectomie sont d'une part sur l'élocution, mais aussi sur la déglutition. Alors la déglutition, donc, c'est avaler, le geste d'avaler. Après une glossectomie, assez souvent, on met en place une sonde nasogastrique. C'est un tuyau qui va passer par le nez et qui va aller directement dans l'estomac pour nourrir le patient, parce qu'on ne peut pas souvent le faire remanger tout de suite. Mais le but, c'est de retirer cette sonde nasogastrique le plus rapidement possible et que la personne puisse remanger par les voies naturelles le plus rapidement possible. Donc ça, en général, on le fait à l'hôpital. Dès que le patient est autonome au niveau de l'alimentation, il pourra rentrer à la maison. Mais il sera très important de poursuivre une rééducation à la maison pour avoir une déglutition la plus optimale possible. Donc ça sera avec un orthophoniste à domicile. Et puis pour l'élocution, parce que la langue a un rôle très important dans l'élocution, et donc travailler avec l'orthophoniste son élocution pour reprendre une qualité de vie la plus normale possible. Il sera également important de faire de la rééducation avec un kiné, notamment quand il y a un curage ganglionnaire, donc pour effectuer des massages cervicaux ou travailler la mobilité des bras, parce que parfois on a des douleurs au niveau des épaules.
Après une glossectomie, les patients se plaignent souvent d'avoir le menton et le cou qui font de l'œdème. Qu'est-ce que vous conseillez pour justement améliorer cette sensation, améliorer la peau, les gonflements ?
Alors cet œdème, il n'est pas dû à la glossectomie en fait, hein, il est dû au geste ganglionnaire, où on retire les ganglions, au curage ganglionnaire, et on va avoir un problème de drainage lymphatique. C'est un peu comme pour le cancer du sein, où les femmes ont un lymphœdème au niveau du bras. Et ben là, c'est un peu la même chose. On enlève les ganglions au niveau du cou, et du coup, on a un gonflement au niveau de la joue, au niveau du menton. Alors souvent, plus important le matin quand on se lève, parce qu'on a passé la nuit allongée. Et quand on se met debout, le drainage se fait un petit peu mieux par déclivité. Donc pour essayer d'améliorer au mieux cet œdème, c'est de faire des massages avec un kiné, qui va faire un drainage lymphatique et qui va bien améliorer cet œdème en général.
Et en combien de temps, justement, ça peut s'améliorer ?
Alors, ça va dépendre du type de traitement. Est-ce qu'il n'y a que de la chirurgie ? Est-ce qu'on va faire des rayons en plus ? Mais je dirais en quelques semaines à quelques mois de massage, en général, les choses s'améliorent bien. Après, quand il y a de la radiothérapie derrière, ça peut durer plus longtemps dans le temps.
La glossectomie est-elle toujours la conséquence des facteurs de risque connus comme le tabac ou l'alcool ?
Alors non, c'est vrai pour 2/3 des patients. Le tabac est un facteur de risque de cancer de la langue. L'alcool est un facteur de risque pour les cancers de la langue. Et le tabac et l'alcool, l'association des deux, c'est vraiment le cocktail explosif. Donc pour 2/3 des patients, c'est le facteur de risque numéro 1. Après, pour 1/3 des patients, eh bien, on a des causes moins bien connues, notamment les lésions précancéreuses, avec ce qu'on appelle les lichens, qui peuvent se transformer en cancer. Ça, c'est des lésions précancéreuses. On peut aussi avoir des cancers développés sur des glandes salivaires accessoires. C'est des petites glandes qui sont disséminées sous la muqueuse, dans toute la bouche, qui vont fabriquer de la salive et qui peuvent se transformer en cancer, sans qu'on ait d'explication. Et puis, on a toute une série de patients qui développent des cancers sans qu'on sache pourquoi, sans aucun facteur de risque connu.
Et le HPV, ça peut être à l'origine d'un cancer de la langue ?
Alors l'HPV, ça peut être à l'origine des cancers de la base de langue. Là, on a du tissu comme les végétations qu'on appelle les amygdales basilinguales. Donc on peut avoir des cancers dus à l'HPV, au même titre qu'au niveau des amygdales palatines. Par contre, l'HPV ne donne pas de cancer de la langue mobile.
On a parlé de l'intervention. J'aimerais qu'on parle maintenant des symptômes. Justement, comment se manifestent les symptômes d'un cancer de la langue ?
Alors ça peut être assez varié, mais on va dire qu'une lésion aphteuse qui saigne, qui fait mal et surtout qui dure dans le temps. C'est pas le problème de faire un afle pendant 5 jours et qui ensuite guérit. C'est une lésion qui va persister dans le temps plus de 3 semaines, qui va saigner, qui parfois va devenir bourgeonnante, former un petit bourgeon. Ça, c'est suspect. La douleur avec une lésion, c'est suspect. La difficulté à avaler, ce qu'on appelle une dysphagie ou une odynophagie, c'est suspect. Surtout quand ça dure dans le temps, pendant, on va dire, plus de 3 semaines. Après, évidemment, si c'est un patient qui fume et ou qui consomme de l'alcool, il faudra encore plus se méfier.
Qui consulter si on a un doute avec ces symptômes?
On peut commencer par voir son généraliste et qui pourra faire un premier examen. Mais en général, si on a vraiment un doute sur un potentiel cancer ORL, il faut consulter un spécialiste, un ORL ou un chirurgien maxillofacial qui va faire un examen complet au niveau de la cavité buccale, voire un examen au niveau de la base de langue avec des outils comme un nasofibroscope. Et puis, si nécessaire, il fera une biopsie, il fera un scanner pour essayer d'aller plus loin dans le bilan.
Est-ce qu'il s'agit toujours du même type de tumeur à l'origine d'un cancer de la langue?
Alors non, il y a plusieurs types de tumeurs. La tumeur la plus fréquente, le cancer le plus fréquent, c'est le carcinome épidermoïde. C'est le cancer qu'on retrouve chez le patient qui fume et qui boit, mais chez aussi beaucoup d'autres patients qui n'ont aucun facteur de risque. Après, on peut avoir toute une variété de cancers différents pour les glandes salivaires accessoires, qui sont en fait les mêmes cancers qu'on retrouve dans la glande parotide, dans la glande submandibulaire, qui sont les glandes salivaires principales. Eh bien, on peut avoir exactement les mêmes cancers au niveau des glandes salivaires qui sont disséminées dans la muqueuse, avec des adénocarcinomes, des carcinomes mucoépidermoïdes, qui sont dans des cancers beaucoup plus rares. Et c'est pour ces cancers que le REFCOR, le réseau d'expertise français sur les cancers ORL rares, a été créé, parce que c'est des cancers qui sont peu fréquents et ils sont très variés. Et chaque cancer est finalement une rareté et on cherche à essayer de mieux comprendre ces cancers, mieux comprendre leur développement et mieux comprendre comment les traiter.
Quels sont bien souvent les traitements associés lorsqu'un patient est opéré d'une glossectomie?
Alors en général, lorsqu'on a un cancer de la langue, l'attitude première, c'est d'effectuer une chirurgie. Et en fonction des résultats de la chirurgie, de l'analyse de ce qu'on a enlevé, on décidera de faire ou non un traitement complémentaire. Alors lorsque la tumeur est petite et qu'il n'y a pas de ganglion envahi, souvent c'est un traitement chirurgical exclusif, donc il n'y a pas de radiothérapie ni de chimiothérapie derrière. Mais lorsque la tumeur est plus volumineuse ou qu'il y a des ganglions envahis, on peut proposer en post-opératoire soit une radiothérapie seule, soit une radiothérapie associée à une chimiothérapie. C'est ce qu'on appelle un traitement adjuvant.
Merci professeur Nicolas Facri d'avoir répondu aux questions de l'association Corasso. Je rappelle que vous êtes chirurgien ORL à l'hôpital de la Conception à Marseille. À bientôt.
Merci à vous.
Corasso.org.
Pour plus d'informations, retrouvez-nous sur Corasso.org, notre site dédié à l'information patient, aidant et soignant.